Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. On en parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer normale quand on sait que ça touche 5,8 millions de personnes, oui, en Amérique du Nord. On en parle souvent d'un point de vue plus de prévention, peut-être plus aussi des causes. Donc, d'un côté plutôt clinique, les causes qu'on ne connaît pas vraiment encore, aussi de la façon dont ça touche les familles. Dans son livre « La face cachée de la maladie d'Alzheimer, 7 clés pour créer et nourrir des liens significatifs », Lynn Naslin, elle qui est infirmière, conférencière, elle donne une toute autre perception de cette maladie-là. C'est un livre qui fait beaucoup de bien, qui est plein de tendresse, plein d'amour, et je la rencontre en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, vous savez, cette fin de semaine, on change l'heure. Oui, c'est le retour à l'heure normale dans la nuit du 1er au 2 novembre. Ça se passe à 3 heures du matin ce dimanche. Et on recule donc l'heure à vos horloges, à vos montres, à vos cadrans également. Ça peut être positif hein, pour les couche-tard, ceux qui gagneront une heure pour faire la fête un petit peu plus tard. Mais pour les gens qui ont de la difficulté à trouver le sommeil, ça peut avoir des impacts. Donc, comment on minimise les impacts sur la santé? Je vous en parle dans quelques instants avec Roger Godbout, professeur en psychologie, responsable de la clinique et du laboratoire du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Bonjour, bonjour, Roger Godbout.
Bonjour.
Vous êtes un lève-tôt, hein? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, je m'en rappelle de ça.
toujours un lève-tôt. À ce moment-ci de l'année, au mois d'octobre, au mois de novembre, ça commence à changer un petit peu, là.
Tout à fait. Moi, je suis plutôt une lève-tard. J'aime me coucher tard également. Donc, le changement d'heure pour avoir un petit peu plus d'impact sur moi, parce que, on le sait, les journées raccourcissent à grande, grande vitesse à ce moment-ci de l'année. Et à cause du changement d'heure également, le soleil va se coucher plus tôt. On le sait, on le sent quand on vit en Amérique du Nord, notamment, là, ce changement d'heure-là a des impacts, que ce soit sur notre humeur, sur notre sommeil, sur notre énergie. Comment on peut minimiser ces impacts-là?
Bien, ça a un impact, effectivement, le retour à l'heure normale, le changement d'heure vers l'heure d'hiver. Ça a un impact, mais qui n'est peut-être pas aussi fort que l'impact que l'on peut mesurer lorsqu'on passe à l'heure d'été.
Oui. Mm-hmm.
Les gens qui vont en souffrir le plus, c'est, vous le suggériez, là, les couche-tard vont en profiter, évidemment, parce que la soirée se prolonge. Les couche-tôt vont se sentir somnolents le soir.
Okay.
Et ça va avoir un impact, par exemple, chez les enfants, les jeunes enfants, qui, alors que leur corps leur dit qu'il est 10 heures, le cadran va dire qu'il est seulement 9 heures. Alors, ils vont être fatigués, ils vont devenir irritables, un peu plus impulsifs, un peu plus de négociations, je dirais, en soirée. Donc, ça peut être difficile un peu. Les personnes plus âgées aussi peuvent en souffrir parce que les personnes plus âgées ont des rythmes biologiques qui sont un peu plus rigides, je dirais, qui s'adaptent moins facilement aux changements de conditions. Ils vont peut-être en souffrir un peu.
Mm-hmm.
Les autres personnes qui vont en souffrir, c'est les gens qui sont sensibles aux changements de luminosité, des gens qui deviennent un peu plus moroses, un peu plus mélancoliques à l'automne. Avec le changement de lumière comme ça, il va faire noir très tôt le jour, et selon les horaires de travail, il fera peut-être même noir quand ils vont se lever le matin pour aller travailler. Donc, ça peut être un peu difficile, ça aussi.
Mais Roger, c'est pas clair pour moi, parce que bien sûr, les gens comme moi qui sont couche-tard vont apprécier avoir une heure de plus dans la nuit du 1er au 2 novembre, mais en même temps, après, les impacts se font pas plus importants parce que justement, on se lève plus tard, donc on bénéficie de moins de luminosité.
Oui, ben en fait, vous savez, les couche-tard comme vous, vous n'avez pas gagné une heure de sommeil vraiment. Mm-hmm. Certaines enquêtes ont montré que les gens gagnaient en moyenne une vingtaine de minutes.
Oh, c'est peu, ouais.
parce qu'on est déjà entraîné à se lever à une certaine heure. Les fins de semaine, c'est vrai qu'on se lève un peu plus tard, mais le sommeil de plus qu'on va accumuler sera pas si grand que ça, parce que la quantité de sommeil accumulé est déjà un signal pour le corps, pour dire « Ah, ça suffit, j'en ai eu assez pour récupérer ce que j'avais à récupérer.
Mm-hmm. »
Alors, même si le cadran de l'horloge change, ça a un impact, mais qui est pas si grand que ça.
Est-ce que, et on en parlait tantôt sur l'humeur, le changement d'heure peut avoir une incidence sur la dépression saisonnière?
Oui, effectivement, il y a peut-être 3, peut-être 5 % des gens qui sont sensibles à ça et qui deviennent mélancoliques, voire peut-être un petit peu déprimés. Là, la petite déprime d'automne, mm-hmm. c'est un peu difficile. On le voit dans les cliniques, par exemple, on a une recrudescence de demandes de consultation. Nous, la clinique de sommeil, c'est toujours une saison importante. On reçoit beaucoup plus de jeunes patients avec des troubles de sommeil. Donc, ça a un impact à plusieurs égards. L'humeur, étonnamment, peut être améliorée en s'exposant à la lumière, bien sûr, mais aussi en faisant un peu d'exercice.
Okay.
Ce qu'on propose souvent, c'est que les gens qui vont souffrir de ce changement d'humeur-là à l'automne, surtout avec le changement d'heure, d'en profiter le matin d'abord pour se lever à l'heure désirée, mais de s'activer immédiatement, de ne pas traîner au lit, de ne pas appuyer sur le bouton snooze du radio, la radio ou du réveil matin ou de son téléphone intelligent, de se lever tout de suite, de s'exposer à la lumière si possible à l'extérieur, sinon d'ouvrir des lumières dans la maison, et de s'activer très rapidement. Et déjà, le fait d'activer comme ça au point de vue moteur, ça aide à réguler l'humeur de façon positive.
Roger Godbout, pourquoi le passage à l'heure d'été, donc davantage qui se passe au printemps, là, a plus d'impact?
Bien, on perd une heure de sommeil et là, on la perd, cette heure-là,
mm-hmm.
effectivement. Donc, il faut se lever plus tôt parce que lorsque, au printemps, lorsque le cadran va dire qu'il est 6 heures, bien, il va être 5 heures, en fait, et on va perdre cette heure de sommeil-là. Puis, si on ne le décide pas, on est complètement endormi à ce moment-là. Et il y a certaines données, dont la validité scientifique peut être critiquée par certains, mais qui montrent qu'il y aurait un peu plus d'accidents d'automobile, un peu plus d'incidents cardiovasculaires, des choses comme ça.
Mm-hmm. Bien, pour le moment, on change l'heure dans la nuit du 1er au 2 novembre. Les petits trucs que l'on peut faire pour, bon, si on sait qu'on est un petit peu plus fragile, est-ce qu'il y a des choses très, très concrètes qu'on peut appliquer cette fin de semaine?
Oui, ce qu'on pourrait faire, ce serait dès ce soir de commencer déjà à s'adapter un petit peu en changeant d'environ 15 minutes notre horaire de coucher.
Okay.
C'est-à-dire que rendu à l'automne, on va vouloir reporter cet horaire-là en se couchant 15 minutes plus tard ce soir, 15 minutes plus tard demain soir et 15 minutes plus tard samedi. Et ça va déjà nous porter à aller rattraper ce changement d'horaire-là.
Mm-hmm.
On fait la même chose avec notre repas du soir. Donc, manger peut-être 15 minutes plus tard que d'habitude, se coucher 15 minutes plus tard que d'habitude, et ça va tranquillement nous aider à rattraper ce changement-là.
On peut faire ça avec les enfants aussi?
Absolument, avec les enfants aussi. On fera attention avec les enfants de changer aussi l'heure de la sieste de la journée, si elle fait comme une sieste, on le fait aussi. Chez les petits de moins d'un an, ça ne donne pas grand-chose. Leur rythme biologique est très, très ancré de façon très rigide. Et ça ne changera pas grand-chose. Ils ne verront pas grand-chose non plus parce qu'un tout petit qui dort déjà 13-14 heures, ça ne fait pas un grand changement.
Je lisais que les gens qui sont un petit peu plus fragiles pouvaient changer l'heure au cours de leur réveil le dimanche au lieu de le faire avant de s'endormir. Est-ce que c'est un réel truc, ça?
Ben, c'est une façon psychologique, un traitement qui est possiblement efficace parce qu'on change immédiatement l'indice environnemental. C'est particulièrement efficace avec les gens qui sont sensibles à l'environnement. Vous savez, les gens qui voient un cadran, il est midi, ils ont faim, alors que si le cadran indique 11 heures, ils n'auront pas faim. Et il y a des recherches en psychologie qui ont montré que de truquer les cadrans comme ça pouvait changer le moment où on a faim. Donc, si on le fait, effectivement, on va se croire, comme les gens, comme moi, par exemple, qui avance toujours mon cadran 5 minutes pour être moins en retard possible, bien, je finis par me croire, je suis toujours 5 minutes d'avance.
Donc, vous êtes un bon menteur envers vous-même, Roger.
Je me crois.
Maintenant, on voulait aborder ensemble un autre sujet qui vous tient à cœur, mais qui tient également à cœur tous les gens qui s'intéressent au sommeil, c'est-à-dire le déficit de sommeil chez les enfants, les adolescents également, qui a des conséquences sur la santé et qui est en ce moment une thématique très, très actuelle dans le domaine des troubles du sommeil. Les adolescents n'ont pas les mêmes même besoin en sommeil, je crois,
Effectivement,
Roger.
Effectivement, ils ont des besoins très spécifiques. L'Académie américaine de pédiatrie a fait un énoncé il y a 2 ou 3 semaines, là, demandant aux commissions scolaires de reporter l'heure du début des classes un peu plus tard. Il faut dire que la situation aux États-Unis est un peu plus grave qu'ici.
Okay.
Il y a des classes qui commencent à 7h15 par certains collèges secondaires aux États-Unis. C'est pas ce qu'on a ici tellement. Il n'en demeure pas moins que les adolescents, même ici au Québec, au Canada en général, dorment beaucoup moins que ce qu'ils devraient. Tous les Canadiens, on dort moins. On manque 1 heure de sommeil à peu près, 50 minutes de sommeil. Chez les adolescents, c'est plus fort encore. Parce qu'à l'adolescence, l'horloge qui contrôle justement notre cycle veille-sommeil est décalée. Ils sont plus portés, en général, à se coucher plus tard, parfois à 11 heures, mais parfois à minuit, 1 heure ou 2 heures.
Mm-hmm.
Il y a aussi les activités parascolaires, ceux qui font du théâtre, qui font des activités physiques, jouer au hockey, être père aidant pour des amis en difficulté. Ça fait des activités qui se terminent tard le soir et on ne peut pas s'endormir immédiatement en revenant à la maison après des activités comme celle-là.
Ouais.
Et en général, ça s'accompagne de clavardage, travailler avec sa tablette électronique, qu'il ne faut pas démoniser tant que ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, les tablettes, les téléphones intelligents sont des objets électroniques, des outils qui vont reporter le début de l'endormissement, c'est très vrai, mais c'est pas simplement la lumière dont on parle bien souvent, c'est aussi le contenu.
Ah oui.
Alors, ça peut être aussi grave de lire un roman policier complètement captivant. On ne pourra pas s'endormir immédiatement. C'est la même façon d'écouter une musique très, très forte et très stimulante.
Oui.
Ça va faire le même effet de lire un roman policier, comme je vous le disais. Regarder un film, si on regarde un film de peur en fin de semaine au moment d'Halloween, on ne s'endormira pas tout de suite non plus. Donc, il y a le contenu qui est très important aussi, qui stimule beaucoup le cerveau. Puis le cerveau se dit, bien, écoute, je pense qu'il ne faut pas dormir tout de suite parce qu'on m'a bombardé de trucs très stimulants. Je n'ai pas le temps de dormir pour l'instant. Alors, les adolescents sont un peu coincés dans ça, à avoir des journées très pleines. Et c'est vrai pour les jeunes adultes, je dirais aussi, qui ont des journées très pleines. Autant les jeunes professionnels que ceux qui travaillent, les travailleurs manuels, qui travaillent très fort, font de longues heures, vont reporter l'heure du coucher parce qu'ils sont trop stimulés, parce qu'ils veulent voir leurs conjoints ou leurs amis, avoir une vie sociale. Alors, chez les adolescents, le problème, c'est que les classes commencent toujours à la même heure. Alors, il y a un décalage entre les nuits de fin de semaine et les nuits de semaine.
Mm-hmm.
Souvent, je m'amuse à dire que chaque fin de semaine, les adolescents s'en vont en Europe et reviennent le dimanche soir. Il y a un décalage peut-être pas aussi grand, mais d'un bon 3-4 heures bien souvent, qui fait qu'ils vont tenter de se rattraper immédiatement à la nuit du dimanche soir, puis rentrer en classe le lundi matin, et là, ça fait patate.
Mm-hmm.
Ça fonctionne pas. Plusieurs professeurs me disent que toujours 1, 2 ou 3 étudiants, 1, 2 ou 3 élèves qui ont la tête carrément posée sur le bureau et puis qui dorment, plusieurs autres, 5 à 10, qui sont vraiment pas disponibles parce qu'ils sont trop somnolents. Alors, la première période d'enseignement le lundi matin n'est jamais une période où est-ce qu'on demande des choses très, très complexes. On fait plutôt des tâches un peu plus faciles.
Et les écoles ont une sensibilité à ça?
Les écoles sont prises, les gestionnaires, les directeurs d'école et les gestionnaires sont pris avec un problème d'agencer tout ça, agencer l'horaire des professeurs qui ont une famille aussi, du transport scolaire, des parents, puis les horaires des élèves, adolescents ou jeunes adultes qui ont un horaire décalé. Alors, d'agencer tout ça pour qu'on puisse trouver la zone commune où tout le monde peut bien fonctionner, c'est assez difficile. C'est pour ça que je dis toujours que c'est pas une solution de reporter l'heure du début des classes, c'est pas la seule solution. Juste prendre ça, ça ne va pas changer le problème. Si les classes commencent à 10 heures, les élèves vont se coucher encore plus tard le soir avant.
Mm-hmm.
Ça ne changera pas grand-chose. Il faut que tout soit bien agencé, tout soit bien organisé. De reporter l'heure des classes aussi pour favoriser le transport scolaire ou étaler l'horaire des autobus, ça n'aidera pas non plus au sommeil des élèves. C'est bien montré que de gagner seulement 45 minutes de sommeil à 50 minutes de sommeil pour un adolescent, ça fait augmenter ses notes de P+ à A, de A à A+. C'est significatif. Donc, on est tous pour la vertu, on veut tous que ça fonctionne bien. Mais je suis conscient que les commissions scolaires ont des problèmes complexes à régler, d'agencer tout ça en un seul et même programme.
Mais Roger, est-ce que les adolescents ont réellement un besoin de sommeil plus grand que les adultes?
Oui, le besoin de sommeil chez un adolescent est de 9h à 9h30.
Okay.
Et très, très peu long. C'est un grand pourcentage, 20-25% des adolescents qui n'atteignent pas du tout, à qui il manque 1 heure ou 2 heures de sommeil, ce qui est énorme.
Mais pourquoi ils ont besoin de plus de sommeil?
Bien, La quantité de sommeil diminue à partir du moment où on vient au monde. Quand on vient au monde, on va dormir 16 à 18 heures par jour.
Oui.
On va se réveiller le reste du temps. En bonne partie de la nuit, les parents le savent. On a un cycle qui est guidé par le besoin de se nourrir, donc un cycle aux 4 heures à peu près. Et plus on vieillit, plus le sommeil se met à... Cette longue période de sommeil se fragmente en 2 ou 3 morceaux, c'est-à-dire une période de sommeil de nuit un peu plus longue et 2 siestes le jour. Et on continue à vieillir comme ça. Il n'y a plus qu'une seule sieste le jour vers 4-5 ans parfois. Et quand les classes commencent, on n'a plus de sieste et on consolide notre sommeil en une seule période. Mm-hmm. Cette période-là va continuer à diminuer. Parce que les fonctions du sommeil sont multiples. Ils sont surtout très importants chez l'enfant qui doit développer son système nerveux, qui doit développer son système nerveux central, le système nerveux périphérique, c'est-à-dire le cœur, les poumons. Tout ça n'a pas fini de maturer. Et le sommeil participe activement à ça. Pendant que l'on dort, pendant que l'on pense qu'il ne se passe rien, bien, le cerveau travaille très fort à sécréter certaines hormones, à consolider le matériel dans notre mémoire. Le jeune enfant, par exemple, a énormément de choses à apprendre, à parler, à regarder, à ne pas se brûler, à marcher, à aimer, toutes sortes de choses comme ça qui doivent être incorporées et apprises et qui doivent être déposées dans le cerveau. Alors, le temps de sommeil est très, très long pour cette raison-là. Et à mesure qu'on vieillit avec l'âge, notre temps de sommeil diminue jusqu'à ce qu'il soit autour de 6 heures, 5h30, 6 heures chez les personnes plus âgées.
Maintenant, en terminant, Roger Godbout, on fait comment pour favoriser ces heures de sommeil-là chez notre ado? Bon, tantôt, vous disiez on ne diabolise pas tout ce qui est la technologie, les appareils technologique, mais il faut quand même les sortir de la chambre.
Oui, il faut absolument, c'est ça. Alors, quand les jeunes patients viennent à la clinique du sommeil, à l'hôpital Rive-des-Prairies, ce sur quoi on s'entend, c'est une heure de lever qui soit à peu près constante. C'est très peu d'écart entre les jours de semaine et de fin de semaine. Si l'heure du lever est à 7h ou 7h30 la semaine, on va demander à l'adolescent de se lever à 9h à peu près les fins de semaine, pas plus tard que ça. Donc, un écart d'une heure et demie, maximum 2h entre l'heure du lever de semaine et l'heure du lever de fin de semaine ou l'heure des vacances. De cette façon-là, on peut bien ancrer l'horloge qui aura un point de départ pour fixer son rythme. Le soir venu, il y aura beaucoup plus de temps passé éveillé et ça crée une pression pour le sommeil. Alors, de se lever à 9h plutôt qu'à midi, ça fait 3h de plus de pression, de dette de sommeil accumulée, ce qui fait en sorte que le soir venu, on s'endort beaucoup plus facilement. Beaucoup plus tôt. Il faut aussi organiser la chambre à coucher pour qu'elle soit un lieu de calme, de repos, de sommeil. La chambre à coucher, normalement, et là, je parle pour une personne qui a un trouble de sommeil. La chambre à coucher devrait servir à 3 choses. Dormir, bien sûr, les activités sexuelles et se soigner quand on est malade. Autre chose que ça, c'est pas indiqué. On ne mange pas dans la chambre à coucher. On ne travaille pas autant que possible dans la chambre à coucher quand c'est possible. On ne regarde pas la télévision dans la chambre à coucher. Pour un adolescent, c'est très difficile.
Ben oui.
La chambre est un repère. C'est là qu'on parle avec ses amis. C'est surtout là qu'on a la paix à ne pas se faire achaler par les parents.
Bien
sûr. C'est difficile. Et si le problème est de régler un horaire de sommeil un peu plus convenable, c'est d'établir une règle qui est en sorte qu'on ne se lève pas plus tard que, par exemple, 9 heures, comme je suggérais tout à l'heure. Le reste, c'est pas trop un problème s'il n'y a pas de trouble de sommeil qui s'installe, mais dès qu'il y aura un trouble de sommeil qui s'installera, c'est-à-dire je me réveille souvent la nuit, je prends du temps à m'endormir, là, il faudra revenir à des approches plus comportementales puis essayer d'établir un peu là où doit se faire des choses, dans la chambre à coucher et à l'extérieur de la chambre à coucher.
Et pour en savoir davantage, vous êtes à l'origine d'un document vidéo sur le sujet qui s'intitule « Le sommeil des jeunes, pas toujours de tout repos ». Est-ce que le grand public a accès à cette vidéo?
C'est un DVD qu'on a fait à l'intention des gestionnaires d'école, des infirmières scolaires, etc. Sans doute que les parents pourraient se procurer aussi au centre des communications de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Mais il s'agit en fait... Bon, ce DVD-là s'accompagne d'un petit livret explicatif et s'accompagne surtout de témoignages, d'un outil de réflexion. J'ai pas voulu pontifier avec mes certitudes et puis faire de l'enseignement avec ça, mais plutôt amener des questions puis en donnant beaucoup d'informations pour y arriver. Parce que souvent, la situation va nous être bien, bien personnelle. Alors, qu'est-ce qu'un professeur d'école doit faire devant ses élèves qui ont des problèmes de sommeil? Comment récupérer ce problème-là pour en faire quelque chose de positif? Comment améliorer la situation? Donc, il y a beaucoup de témoignages d'élèves, du primaire et du secondaire. Et là, on voit qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Les parents vont bien voir que d'autres enfants qui font vivre la même chose à leurs parents. Et puis, il y a des outils de réflexion un peu dans ce DVD-là pour arriver à des solutions.
Eh bien, on mettra l'adresse de l'hôpital Rivière-des-Prairies, Roger Godbout, où vous êtes le responsable de la clinique du sommeil, de la clinique et du laboratoire du sommeil. Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour Léna Asselin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. J'ai envie de débuter en vous citant, en citant la quatrième de couverture de votre livre qui s'intitule « La face cachée de la maladie d'Alzheimer, cette clé pour créer et nourrir des liens significatifs » parce que ça décrit vraiment très, très bien de quoi on parle. Et j'y vais comme suit. « Pendant que son être mental s'éteint, la personne aux prises avec cette affection est en quelque sorte propulsée dans son cœur. Et c'est précisément à partir de là que nous pouvons continuer à nourrir des liens significatifs avec elle. Il est donc important que nous développions nos compétences d'amour. C'est ainsi que nous pourrons mutuellement transcender nos peurs et notre sentiment d'impuissance. » Parce que j'avais envie de citer ça, Léna Asselin, parce que vous parlez beaucoup d'amour, vous parlez beaucoup de comment rejoindre le cœur de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que c'est plein de tendresse. Et en même temps, bien sûr, ça s'adresse aux proches des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, mais j'avais l'impression que c'est un livre sur l'accompagnement de n'importe quelle personne qui vit près de quelqu'un de malade, qui quitte tranquillement ce monde-là pour aller vers un autre monde. Vous en parlez beaucoup de ça, de cet autre monde-là. Cette approche-là, ça fait longtemps que vous la creusez, que vous vous l'appropriez. Comment vous l'avez développée?
En fait, je l'ai développée pendant que j'accompagnais les personnes en fin de vie. Donc, j'ai passé une période de ma vie à avoir le privilège d'entendre des milliers de personnes en fin de vie. Et par curiosité, je leur demandais tout le temps: qu'est-ce que vous apportez avec vous de l'autre côté des nuages quand vous allez partir? Mm-hmm. Et c'est très intéressant parce que tout le monde, chacun à sa manière, me répondait des souvenirs d'amour. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai compris, c'est vraiment eux qui me l'ont enseigné, que intuitivement, on sait au terme de notre existence, au fil d'arrivée, que c'est la seule chose qu'on apporte. Donc, j'ai fait un lien et je me suis dit, si tout le monde sait, ou du moins a l'air de savoir qu'ils apportent ça, que c'est la seule chose qui nous survit, ça serait intéressant de le transposer au niveau de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai transposé cette approche chez des milliers de personnes encore atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai formé beaucoup de personnels soignants, mm-hmm, qui ne savaient plus quoi faire avec certains patients, avec certaines familles, quoi dire, comment être, quoi faire, comment répondre, comment regarder la personne autrement qu'à travers ses limites. Oui. Et ça a été fort intéressant parce que ce sont les personnes atteintes qui m'ont confirmé qu'effectivement, par plusieurs exemples que je mentionne dans le bouquin, qu'il y a vraiment une partie d'eux qui n'est pas atteinte et qui ne le sera jamais, que j'appelle le cœur, mais qui peut prendre d'autres mots si on le souhaite ainsi. Et ça, j'en ai eu la preuve jusque dans les dernières semaines d'existence. Donc, ce sont vraiment les personnes qui m'ont confirmé cette réalité, si on veut, pour ne pas dire cette vérité.
Ouais. C'est un livre que vous écrivez, à mon sens, que vous avez écrit avec beaucoup d'humilité, en observant ce qui se passait autour de vous. Il y a beaucoup d'exemples aussi, je tiens à le dire pour les gens qui auront le bouquin entre les mains ou qui sont intéressés. Ouais. Beaucoup d'exemples pour illustrer ces approches-là. Ouais. À un moment donné, vous parlez de votre fille qui est là, qui lit une carte à quelqu'un qui est malade et qui se demande si c'est approprié tout ça, et cette personne-là, et si elle va comprendre la personne. Et la personne ouvre grand les bras pour accueillir votre fille qui est un petit peu craintive. Ouais. Évidemment, une enfant, et vous dites OK, c'est OK, c'est correct. Ouais. Donc, encore là, toujours cette approche-là par le cœur. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, Léna Asselin. Il y a aussi des exemples de gens qui sont complètement en perte de contact avec la réalité, et vous les ramenez à leur vie d'avant. C'est vraiment important dans votre livre de qui était la personne avant.
Ouais.
Ça change beaucoup le visage qu'on a de l'Alzheimer, ce livre-là.
Ouais.
C'est important pour vous, hein, de changer la perception.
Complètement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Et à mon avis, ce sont eux qui sont nos enseignants. C'est un autre regard à porter sur les personnes atteintes, beaucoup plus que sur la maladie, parce que ce sont des humains comme nous. Et c'est très difficile pour eux parce que quand le mental s'éteint, ils sont propulsés à un autre niveau où le ressenti est beaucoup plus aiguisé, un peu comme la personne qui devient aveugle va développer un autre sens. Donc, je me dis quelque part, par amour, c'est pour ça que je parle toujours de l'amour, parce qu'on ne sait pas pourquoi on le ferait, mais à mon avis, la seule raison pour laquelle on le ferait, c'est par amour pour la personne atteinte, pour ne pas avoir de regrets, par amour pour soi aussi, pour que notre vie ait un sens. Et nécessairement que quand on veut les toucher, les rejoindre et sentir quelque chose de possible encore, c'est à nous à descendre dans notre cœur. Et c'est pour ça que je les appelle les enseignants. Parce que quand le mental s'éteint, on doit prendre conscience que notre mental, c'est pas le roi, comme d'habitude.
Mm-hmm.
Et ils viennent nous enseigner aussi à développer ce qu'on a comme intelligence intuitive qui est peu reconnue dans cette société.
Ouais. Et surtout dans le domaine médical.
Ben partout, en fait. Hein. C'est à la limite non pas peu reconnu, mais quasi dénigré que le savoir-être pourrait être aussi important, sinon plus que le savoir-être, savoir-faire. Et pourtant, tout le monde est quand même... tous ceux et celles qui ont vécu des épreuves sont quand même capables de reconnaître que ce qui les a touchés, c'est pas ce que quelqu'un sait, c'est ce que quelqu'un est.
Et
tout ça est très porteur. Et effectivement, je suis très délicate dans mon approche parce que je veux respecter les gens. Je veux que chacun y tire ses enseignements. Mais quelque part, c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'accessibilité. J'ai trop vu de personnes souffrir, être tristes parce qu'ils avaient l'impression que c'était fini.
Oui.
Et effectivement, il y a beaucoup de deuil à faire avec cette maladie. Donc, quand on ne peut pas faire quelque chose, je l'ai dit dans le bouquin, on peut changer notre rapport à ce quelque chose.
Oui.
Et en attendant qu'on trouve quelque chose, je pense qu'on peut développer des qualités humaines magnifiques qui vont être bénéfiques pour tous ceux qui nous entourent.
Et même vous, en tant qu'infirmière, en tant que conférencière, vous le dites dans le livre, parfois, en contact avec ces gens-là, vous vous ramenez à l'ordre. OK, je dois rester dans mon cœur.
Ouais.
Je dois rester dans mon cœur pour trouver une solution.
Ouais.
Il ne faut pas que je passe par la tête, sinon ce ne sera pas la bonne approche. Vous-même, vous avez à faire ce cheminement-là.
Bien, j'essaie du moins de vivre le plus possible en accord avec ce que je propose dans le bouquin. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est partagé de cette façon-là. Infirmière, je ne suis plus déjà depuis une quinzaine d'années. C'est plus au niveau de la formation des gens qui accompagnent aujourd'hui, mais dans mon quotidien, je suis toujours soucieuse d'être au meilleur de moi parce que je pense que c'est comme ça qu'on enseigne aussi.
Mm-hmm. C'est la semaine des proches aidants qui commence le 2 novembre, Lynn Asselin.
Ouais.
Il nous reste une minute. Un petit mot à dire à ces gens-là en terminant.
Aux proches aidants,
ouais.
Que vraiment, quand on pense que plus rien n'est possible, si on se laisse enseigner, si on voit les choses autrement, c'est vraiment important. Et aussi, je dirais qu'on s'attend souvent à ce que les choses changent pour être bien. Et on est rendu à une période où on doit changer pour que ça change. Donc, il faut se donner les moyens aussi de changer.
Lynn Asselin, La face cachée de la maladie d'Alzheimer, 7 clés pour créer et nourrir des liens significatifs. Un bouquin dans lequel j'ai plongé avec beaucoup d'émotions. Merci,
merci
beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Et puis, on vous réinvitera, probablement.
Avec plaisir.
Kamal Salifou, merci beaucoup à la mise en onde. C'est Marianne Paquette. Je vous embrasse. On se retrouve demain, puis on est en rediffusion à 17h. Si vous nous avez manqué, bye bye.